Et juste avant d'accueillir Daniel, je voudrais ce soir faire un petit coucou à Émilienne qui nous écoute et qui est une de nos fidèles auditrices. Bonsoir à vous Daniel.
Oui, bonsoir Sabine.
Bienvenue sur cette libre antenne.
Merci à vous, mais déjà tout de suite je vais vous dire, vous avez dit en parlant de moi que je tentais de reconstruire ma vie, c'est peut-être franchir un peu vite les étapes parce que j'essaie pour l'instant de survivre.
C'est, alors, à ce stade-là. Racontez-moi.
Voilà. Alors, j'ai 78 ans.
Vous avez une voix beaucoup plus jeune, dis donc. On a dû vous le dire déjà.
Ben écoutez, on me l'a dit, puis on me le dit quand on me voit, parce qu'on me donne 20 ans de moins.
Ah ben, très bien. Donc, moi, je suis persuadée qu'on a l'âge qu'on paraît, donc c'est parfait.
Mais absolument. En plus, je ne me pense pas du tout comme une vieille dame. Et je pense très souvent ça quand vous avez des auditeurs et surtout des auditrices qui sont grand-mères ou arrière-grand-mères comme moi, d'ailleurs. Et donc, voilà, j'ai 78 ans et je ne pense pas du tout à l'âge. Mais je suis dans une situation peu banale, précisément pour mon âge, parce que je suis en instance de divorce.
Ah oui, effectivement.
Alors... Ah oui, c'est pas facile du tout. J'ai battu, sans le vouloir d'ailleurs, dans ma vie un grand nombre de records, mais celui-là, je ne pensais pas du tout, je ne pensais pas avoir à vivre ça.
Vous en seriez voilà, passé de celui-là.
Ah, absolument, parce que je connais mon mari depuis 32 ans. J'ai une vie d'ailleurs assez peu banale. Je l'ai connu en Nouvelle-Calédonie, où j'étais venue avec mon premier mari pour 3 ans. Et où finalement je suis restée 30 ans. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ces 30 ans-là. J'ai ma dernière fille qui est née là-bas. Le premier est né au Congo. La deuxième aurait dû naître au Tchad. Après d'autres à Paris. Et puis j'ai continué au Cameroun. Je suis revenue à Paris. Et ensuite nous sommes partis en Nouvelle-Calédonie. Et puis là, avec ce premier mari, je me suis rendu compte au bout de 13-14 ans de mariage, enfin je me suis rendu compte même pas parce que je suis d'une telle naïveté que j'avais rien vu, mais c'est autour de moi, comme c'est quelqu'un qui était très connu puisqu'il était à la radio et à la télévision, on m'a dit mais il est homosexuel, etc. On me disait les gens sont très méchants vraiment, pendant un an je l'ai défendu et puis il a bien fallu que je me rende à l'évidence. Et c'était le cas, donc là, je ne l'ai plus du tout supporté. J'avais eu 5 enfants avec lui, donc 4 avant 25 ans.
Oula, dis donc, vous n'avez pas chômé, hein.
Ah, c'est ce que je vous dis, j'ai battu des records, mais ce n'était pas tellement choisi, je dois dire, à l'époque. Je me suis mariée à 18 ans, j'ai passé mon bac à 15 ans. Enfin, vous voyez, j'ai fait plein de trucs à l'envers de tout le monde. Et bon, malheureusement, j'ai perdu mon fils aîné qui était né à Brazzaville et je l'ai perdu à 4 mois de quelque chose qu'on ignorait à l'époque médicalement qui s'appelait la mort subite du nouveau-né. Oui. Voilà, donc maintenant on connaît ça, hélas. Oui. Et puis donc, je reviens à mon mari à Nouméa, là, donc j'ai divorcé de façon très, très contentieuse puisqu'il y a eu 7 décisions contradictoires pour la garde des enfants.
Oula, mais qui a demandé le divorce, en fait, à l'origine ?
Eh bien, on était d'accord pour divorcer, d'ailleurs, comme pour mon deuxième divorce. Mais vous savez, les hommes, ils sont d'accord, mais tant qu'ils ont tous les avantages.
Oui, c'est ça.
Clair, net et précis, c'est-à-dire mon mari qui voulait toujours se réfugier derrière la respectabilité que je lui avais donnée, parce que tout ça remonte évidemment à des années lointaines. Dieu merci, il n'y a plus cette hostilité vis-à-vis des homosexuels et toutes les formes de sexualité d'ailleurs, mais à l'époque c'était pas ça. Et en plus, étant à la télévision, il était très connu. Donc,
vous lui servez de couverture en fait.
Voilà, ouais. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Ouais. Notre mariage et le fait d'être parent, ça lui donnait la respectabilité qu'il avait toujours cherché à avoir et que voilà, là, moi je lui donnais. En plus, bon, j'étais à peu près présentable, on allait à pas mal de cérémonies officielles, c'était une vie ordinaire. Donc, au moment du divorce, eh bien, on était d'accord sur le principe, mais pas sur les conséquences, c'est-à-dire la garde des enfants. J'ai même pas demandé de pension alimentaire, d'ailleurs, rien du tout, j'ai tout laissé comme ça, je voulais mes enfants. Et ce divorce a été commencé à Nantes, continué en appel à Rennes, continué à Cayenne où il était de nouveau affecté, continué en appel en Martinique, revenu en France et fini à Rennes.
Mais qu'est-ce qu'il voulait à chaque fois en fait? Qu'est-ce qu'il réclamait?
Il voulait les enfants.
Mais en garde complète?
Absolument. Ah oui, parce que nous étions. Alors moi, je suis revenue à Paris, évidemment, puis je suis repartie à Nouméa où j'avais passé avec mes 4 enfants, j'avais fait une maîtrise de droit tout en travaillant quand même. J'avais appris qu'il y avait une fac de droit à Nouméa. J'avais, il faut vous dire, j'adorais les études et j'adore toujours les bouquins. Bon, j'adore lire, j'ai plusieurs diplômes. Et ce mariage précoce m'avait empêché de continuer ma licence de sciences
Puis
que
les
je
enfants
faisais à
surtout,
Jussieu.
j'imagine, parce que autant d'enfants en peu
Ben,
de temps,
c'est-à-dire
on
que
n'a
c'est
plus le
surtout
temps de
mon
travailler.
mariage.
Oui, ben oui.
C'est surtout mon mariage parce que, bon, à l'époque, j'étais enceinte. C'est ça qui a précipité un peu les choses. Et puis, surtout, la nomination de mon mari à Brazzaville. Donc, j'ai pas fini cette maîtrise que je voulais, enfin, déjà au départ, la licence à l'époque. Je voulais faire, figurez-vous, de la recherche en génétique. Et à l'époque, on n'en parlait pas du tout.
Ah oui, c'est
Et
vrai.
moi, c'était quelque chose qui me passionnait. Et quand j'entends tout ce qu'on fait maintenant, quand je lis, enfin, je me dis, j'étais vraiment à la pointe du progrès, d'une certaine façon.
Ça vous intéresse alors souvent
Et
quand on parle du transgénérationnel, j'imagine?
ben oui, puis tout, si vous voulez, la fécondation in vitro, déjà au départ, le professeur Testard, etc. Moi, c'était ce que je voulais faire. Voilà, personne n'en parlait, mais bon. Donc, quand je suis arrivée à Brazzaville pour me marier et vivre 3 ans, je pensais continuer mes études de sciences. Seulement, mon mari, qui était parti 4 mois avant moi, n'avait pas dit qu'il n'y avait pas de fac de sciences, évidemment. En plus, il y avait une fac de lettres, je me suis inscrite en lettres, mais ça ne lui convenait pas, et puis ça ne m'a pas convenu non plus, parce qu'il faisait son service militaire à l'époque, c'était encore la guerre d'Algérie. Donc, il a été nommé, non pas en Algérie, mais en République centrafricaine pour faire ses classes. Donc, on a été séparés pendant 4 mois. C'est d'ailleurs pendant ce temps-là que mon fils est décédé. Il est revenu à ce moment-là. Et donc, c'est moi qui faisais bouillir la marmite, puisqu'il ne travaillait plus à la radio. Donc, je ne pouvais plus continuer mes études, d'autant que j'ai été quasiment immédiatement enceinte, encore une fois. Bon, enfin, j'ai eu 3 enfants en 36 mois, entre les années 60 et 63, janvier 60, février 63. Donc, au moment où nous divorçons, nous demandons au divorce, il voulait toujours garder cette espèce de façade en demandant la garde des
Mais
enfants.
c'était compatible avec son métier de s'occuper de tous ses enfants?
Ah, c'était compatible, oui, parce que bon, il y avait quand même toujours quelqu'un pour s'occuper de la maison. Le grand avait 10 ans de plus que la toute petite, j'en ai eu trois, quatre même très rapprochés. Puis après la dernière, il y a eu 5 ans. Mais enfin bon, c'était encore un bébé stérile à la dernière. C'est-à-dire que j'ai rarement eu des enfants au moment où moi je les aurais voulu. Ça, c'était la vie des
Et
femmes.
est-ce que sa notoriété a joué contre vous lors de ce
Oui,
divorce?
sa notoriété a joué contre moi, absolument. Et puis surtout le fait que, si vous voulez, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, dans ce divorce extrêmement contentieux, il a commencé à Nantes, puisque nous avions une maison à Nantes, on avait acheté pour venir au moment des vacances, des congés, comme on disait, parce que l'année scolaire à Nouméa est complètement décalée par rapport à la métropole. Et puis on s'était dit que le jour où on rentrerait, bon, les enfants auraient tout un environnement pour faire leurs études. Donc on a commencé là, mais moi, voyant que lui était affecté encore outre-mer à Cayenne, je suis repartie à Nouméa, où donc, dans l'intervalle, pendant notre séjour, j'avais fait une maîtrise de droit. Et monsieur était déjà très mécontent que je fasse ça. Et tout en travaillant, j'avais un travail à mi-temps, je faisais ma maîtrise de droit, j'avais 4 enfants. Le premier jour où je suis revenue à la maison, toute heureuse, en voyant mes résultats, j'ai dit, bon, ben ça y est, je suis reçue et j'ai une mention. Ce cher homme m'a dit, c'est bien dommage. Vous voyez que j'étais bien, bien entourée, bien encouragée. Et
Oui,
pourquoi il disait c'est bien
ça fait
dommage?
plaisir.
Ah, ça fait plaisir, oui. Et parce qu'il savait que j'allais continuer, quoi, ce que j'ai fait. Tous les ans, j'ai été reçue, j'ai passé ma maîtrise de droit. Au départ, je voulais être avocate, ce qui était un projet de long terme, puisque j'avais un grand-père avocat à Paris. Et puis, à l'époque, bon, il fallait être stagiaire pendant un certain temps. Et comme c'était en plein divorce, bien, finalement, le stage chez mes copains avocats qu'on me proposait était assez mal payé. Alors, moi, je voulais retourner en France pour suivre cette procédure et après à Cayenne pour avoir mes enfants parce que lui, il avait un travail. Il était affecté dans un endroit avec une sécurité
Oui,
d'emploi.
voilà, donc
Il
il a
avait
joué
son
la
voyage.
stabilité, quoi.
Et bien voilà, il a vu son voyage payé, son logement fourni, ou des avantages de logement que moi je n'avais pas. Repartant à Nouméa, je recommençais comme une recrutée locale, c'est-à-dire sans aucun des avantages des expatriés, ni mon voyage, ni rien, et aucun des voyages de mes enfants. Donc il fallait que je gagne quand même quelque chose pour pouvoir, déjà dans un premier temps, le temps de la procédure, et jamais j'aurais imaginé que ça durerait 7 ans, avec des décisions aussi contradictoires. Donc j'avais, à ce moment-là, j'ai renoncé au barreau et j'ai pris le notariat parce que un notaire m'a dit, ben moi je vous prends, puis il me payait davantage et d'ailleurs il m'a triplé mon salaire en un an.
Alors comment s'est finie la procédure au bout de 7 ans?
Alors la procédure s'est finie que les enfants évidemment avaient grandi. Les deux aînés faisaient leurs études en université en France, que mon mari avait continué ses différentes affectations, et donc il a eu la garde des enfants, mais je dis c'était inutile, puisque les aînés avaient 20 ans, 18 ans, enfin 19 ans, etc., et faisaient leurs études en France. Et là, il a eu la bonne idée, avec les deux plus jeunes qu'il avait encore avec lui, de redemander à venir à Nouméa, ce qu'il a obtenu. Puis, sachant que moi j'y étais, que théoriquement j'étais censée m'y fixer. Donc là,
quand vous dites les petits, ils avaient quel âge les petits?
Les deux plus jeunes, eh bien voyons, l'un avait 15 ans et la dernière avait 10 ans.
D'accord.
Tandis que les autres étaient en fac, vous voyez. Donc c'est terminé comme ça. Et puis, on a retrouvé des rapports qu'on aurait dû avoir toujours, c'est-à-dire normaux. J'ai dit aux enfants, vous avez maintenant 2 maisons, vous pouvez venir quand vous voulez, etc. On s'organisait. Il n'y avait même pas de droit de visite et autres. Ils venaient quand ils voulaient, les enfants, et réciproquement. Donc c'était gros avantage, très gros avantage. Mais malheureusement, ces expatriés, comme on dit, ont une durée de séjour toujours limitée. Il avait demandé à renouveler son séjour pour rester justement avec notre fils qui, à ce moment-là, allait faire son service militaire et la petite dernière qui était née à Nouméa et qui est très, très attachée à ce pays, où elle est encore allée d'ailleurs il y a peu de temps. Et elle a des amis d'enfance depuis la maternelle là-bas et tout ça. Et on lui a refusé à mon mari ce renouvellement. Donc, il a fallu qu'il parte. Moi, je m'étais organisée pour prendre ma fille avec moi. Et l'autre, bon, faisant son service militaire, les choses, on avait le temps de se retourner, quoi. Et puis, il y a encore eu un drame, c'est que j'avais loué un appartement, un bail, mais j'étais à l'époque pas dans le monde des affaires. J'étais remplaçante dans l'enseignement. Et je n'ai pas eu de poste de remplaçante au moment de la rentrée scolaire. C'est-à-dire que j'ai appris le 28 février pour la rentrée du 1er mars que je n'avais pas de poste. Et mon mari est reparti le 15 mars avec ma dernière fille. On était complètement déchirées toutes les deux. Et pendant les 3 ans où elle était dans cette maison de Nantes, la seule avec son père, seconde première terminale, elle écrivait tous les jours à ses amis de Nouméa, tous les jours, ces gamines que je voyais, elles pleurent, elles ne se font pas d'amis en France, enfin bon. Et puis, voilà, ça a été très, très douloureux pour nous tous, et en particulier pour mes deux fils, parce que j'ai 2 fils et 2 filles, qui n'ont pas pu s'identifier à leur père, et qui en ont gardé des séquelles. J'ai un fils qui a été très, très bouleversé par tout ça, qui a eu un profond mépris pour
son père. Ils ont été au courant de cette homosexualité de leur père?
Vous voyez, c'est bien une bonne question. Moi, dans la procédure en divorce, et c'est bien ce qui a été contre moi, outre le fait que mon mari était connu, etc., il a eu des témoignages, mais c'est invraisemblable. Comment est-ce qu'on peut témoigner que quelqu'un est homosexuel ou pas? J'en sais rien. Bon, il n'y a que moi qui pouvais le dire, à la limite, et encore, j'étais bien trop naïve. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire là?
Je me demandais si vos enfants étaient au courant de ça.
Oui, je n'avais pas sorti dans la procédure l'homosexualité de leur père. Parce que je voulais le protéger. C'est ce que je vous dis, j'étais extrêmement naïve. Je m'étais dit, s'ils apprennent ça, ça va les perturber. Et donc, je n'ai même pas sorti ça dans cette procédure. À l'époque, on pouvait dire pourquoi on demandait le divorce. Et j'aurais eu largement des preuves de ça, puisque j'avais tout un environnement de médecins, etc., d'amis autour de moi. Bon, et c'est pour protéger mes enfants et en même temps mon mari, qui était toujours un peu immature, parce que j'ai toujours protégé les hommes avec qui je vivais. Je n'ai pas sorti cette affaire-là pensant que les enfants ne connaîtraient jamais l'homosexualité de leur père, qui était à l'époque vécu comme presque une monstruosité.
Hein. Un tabou.
Mais, un tabou en tout cas, vous avez raison. Mais voilà, mon mari était donc à la télévision, on le voyait tous les soirs d'ailleurs, il fallait que je sois assidue à ses JT pour dire ce que j'en pensais, ou à ses papiers en radio, etc. Donc j'étais mêlée à tout ça, d'autant plus qu'après j'ai fait moi-même des émissions par le biais d'une association que j'ai créée, qui s'appelait l'Association pour les droits des femmes. Donc, et bah, mes enfants, ils ont vu le nom de leur père et l'honneur en gros sur les murs du collège en mettant égal homo. Et évidemment, ça les a profondément perturbés, et d'autant plus qu'ils ne nous en ont pas parlé.
Comment vous avez su qu'ils ont vu ça alors?
Ah ben, c'est quand ils avaient 20 ans ou 25 ans qu'ils me l'ont dit.
Ah, c'est remonté
des années après.
Oui, d'accord.
Donc, à l'époque, si vous voulez, on ne savait pas qu'il fallait dire ces choses, parler, expliquer, éventuellement aller voir un psy, etc. On ne savait rien du tout. Moi, je vous parle de la haute époque des années 70. Hein.
Donc, ils ont grandi avec ça, en gardant ça pour eux.
Absolument. Bon, en parlant à leurs copains, mais nous, on n'était pas au courant, donc on n'a pas pu réagir comme il le fallait, et on n'a pas dit la cause réelle de notre divorce. On n'a pas dit. Et apparemment, c'était moi la fautive, en plus, parce qu'évidemment, dans ces conditions-là, moi, à l'époque, j'avais 30 ans, 35 ans, ben, j'ai eu un amant assez vite, et donc, c'était moi la fautive, parce que c'était moi qui étais la mère indigne, apparemment, qui trompait son mari et tout ça. Mmh. Un homme si respectable, comme on me disait, vous voyez. Et donc, les enfants étaient très perturbés, et surtout les deux fils, parce que les deux filles, elles ont eu la même réaction vis-à-vis de leur père que moi, c'est-à-dire qu'elles ont protégé leur père.
Oui.
Protégé leur père. Et alors, cette homosexualité n'était pas connue dans la famille de mon mari, je dis, moi, j'en ai jamais parlé, quoique ses oncles et tantes, bon, moi, je suis toujours reçue dans cette famille, je m'occupe encore d'une de ses cousines qui est actuellement proche de moi, je vais voir tous ces gens-là, ils m'ont jamais claqué la porte au nez parce qu'ils ont compris un petit peu quelque chose, surtout qu'une partie de sa famille me connaissait puisque j'étais enfant, on était tous de Saint-Germain-en-Laye, et donc, ils ont compris, mais mon mari jouait le jeu vis-à-vis d'eux, si je puis dire, il se dissimulait toujours, jusqu'au jour où il a fait des propositions d'ordre homosexuel à un jeune de la famille, à son neveu très exactement. Là, ça a déclenché un clash épouvantable dans toute la famille. Le père de ce gamin, qui était militaire, a dit bah, « c'est très bien, moi je porte plainte ». Il est d'abord allé boxer mon ex-mari, puisqu'on était quand même séparés à l'époque. Il est allé le boxer et il a dit qu'il portait plainte. Et cet homme qui était beaucoup dans le paraître, comme beaucoup de gens du spectacle et de la télévision et du cinéma, etc., son image ne devait pas être défaite, si vous voulez. Il a joué un rôle jusqu'à ses 60 ans et là, il allait être en retraite un mois après et il s'est suicidé dans la maison de sa mère. Il s'est pendu. Mes deux filles étaient en France. Moi, j'étais à Nouméa avec mes deux fils. Ça a été un ouragan pour nous, évidemment, d'abord, et puis pour sa famille. Ça a été un ravage parce qu'il y a plusieurs couples et des relations parents-enfants qui se sont absolument détruites à ce moment-là.
Ça, c'était il y a combien de temps?
C'était en 97, le 1er mai 97. D'accord. Ça fait 21 ans. Et, tenez-vous bien, à ce moment-là, mes enfants se sont montés contre moi, me rendant plus ou moins responsable, entre guillemets, de suicide de mon mari, parce qu'il avait toujours pensé que je reviendrais vivre avec lui, parce que, on a plus ou moins dû interpréter que c'est parce que j'étais pas là qu'il s'était suicidé. On s'était quand même séparés physiquement depuis 21 ans, hein, donc c'était pas une proximité immédiate. Mais enfin, il n'était pas âgé, ses soucis professionnel était terminé puisqu'il allait être en retraite, ça a vraiment bouleversé tout le monde. Et bien depuis cette époque, je ne vois plus trois de mes quatre enfants et le quatrième, je le vois fort peu puisqu'il est reparti à Nouméa. Mmh. Donc ça a été un ravage et terrible pour moi, terrible. Voilà, donc ça a été épouvantable toutes ces années-là. J'ai eu des grands bonheurs, mais j'ai eu aussi des grands drames dans ma vie. Et puis, à ce moment-là, moi, étant repartie à Nouméa, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon deuxième mari.
D'accord, donc deuxième épisode de l'histoire.
Oh, c'est même le troisième ou le quatrième, mais enfin, je vous fais court parce qu'il y a certainement d'autres auditeurs qui veulent intervenir. Je rencontre cet homme qui lui aussi venait pour un temps limité à Nouméa, qui était aussi une personnalité. Ce sont des amis qui me savaient seule et malheureuse avec l'ami que j'avais eu entre-temps, qui était très porté sur le whisky mondain, comme on disait, mais il devenait très méchant vers minuit, 1h du matin. En plus, à Nouméa, on se lève à 5h du matin, ce qui était mon cas, lui pas. Et moi, je n'étais pas en forme pour discuter à minuit, 1h. Donc, je me souviens d'un soir, j'en étais malade. J'avais fermé à clé la porte de la chambre. Il m'envoyait toutes les pièces d'un jeu d'échecs que je lui avais offert, qui était en laiton et en métal, contre ma porte pour m'empêcher de dormir parce que je ne voulais pas discuter avec lui. Enfin, des trucs comme ça. Ce qui fait qu'un jour, j'ai appelé la police. Pareil, à minuit, quelque chose comme ça. On l'a embarqué parce qu'ils m'ont dit, voilà, il est chaud, il faut qu'on le fasse sortir du jardin parce que...
Daniel, je me perds un peu dans votre récit. Je ne sais plus de qui vous parlez, là. Vous parlez du
là,
deuxième...
Là, je parle de l'ami que j'ai eu entre mes deux maris.
Ah oui, mais là, vous avez enchaîné sur votre deuxième mari, vous repartez sur l'ami d'avant, je me suis perdue en
oui,
route.
Oui, parce que c'était... Parce que c'est à ce moment-là que j'ai connu mon deuxième mari, si vous
d'accord,
voulez.
D'accord, et donc...
Donc, j'ai été... Donc, j'ai quitté cet homme-là, évidemment. D'ailleurs, le fait qu'il était en salle de dégrisement, ça ne lui a pas du tout convenu. On est resté des semaines sans se parler. Et donc, je connais mon deuxième mari qui vient aussi à Nouméa pour des fonctions officielles. Ce sont des amis, c'est ça que je voulais vous dire, qui m'ont fait rencontrer cet homme. Une soirée importante chez eux, il y avait 40 personnes, en me disant « c'est pas possible, tu vas pas continuer avec cet homme-là, il te récupère à chaque fois ». Bon, ils m'ont présenté cet homme-là et ça a été effectivement une espèce de coup de foudre entre nous. Donc, il était célibataire à Nouméa. Et puis, alors, je passe aussi des tas de péripéties parce qu'il était célibataire à Nouméa, mais quand on revenait à Paris, il n'était plus célibataire parce qu'il y avait femme et enfant à Paris. Ce que personne, évidemment, à Nouméa ne savait, y compris dans son entourage. Et il a fallu que je l'oblige à m'avouer ça, qu'il voulait me cacher en me disant « mais tu comprends bien que si je suis partie tout seule à Nouméa pour un temps, plusieurs années, c'est que mon couple n'allait pas, c'est pas toi qui nous a séparés ». Des choses, si vous voulez, tout à fait vraisemblables. Mm-hmm. Donc, je suis rentrée dans ces explications, parce qu'au départ, j'avais dit « bon, ben, c'est terminé, moi, j'ai jamais eu de liaison avec des hommes mariés, ça m'intéressait pas ». Et puis, il m'a récupérée comme ça, alors qu'on était à Paris à ce moment-là, tous les deux. À ce moment-là, d'ailleurs, il m'avait fait changer ma vie. Parce que moi, ayant connu le chômage à Nouméa, puisqu'il y a eu les événements de 85, 86 très violents, j'étais donc dans le notariat, le monde des affaires s'est évidemment écroulé. Et j'avais trouvé un poste très brillant de notaire associé à Tahiti, où j'avais une de mes meilleures amies avocates là-bas, il m'avait dit, mais tu vas trouver, viens à la maison, etc. J'ai trouvé, et quelques mois, je devais, 4 mois après, partir à Tahiti, notaire associé.
Daniel, il y a trop de détails dans votre histoire, je me perds.
Oui.
Venez-en, s'il vous plaît, un petit peu au fait.
Alors, le fait, si vous voulez, donc, je connais cet homme, je vous dis, dès le départ, il y a eu un mensonge quand même.
Oui,
donc,
et quel mensonge, oui.
Et quel mensonge, au lieu d'aller à Tahiti, je me dis, bon ben c'est terminé, je ne me connaîtrai plus jamais le chômage, je demande à faire une formation en sociologie, puisque j'étais juriste, j'avais des équivalences, et je demande au territoire de Nouvelle-Calédonie de m'envoyer refaire des études à Paris pour passer le CAPES et l'agrégation de sciences économiques et sociales, c'est-à-dire de sociologie. Ce que j'obtiens parce que je voulais retrouver cet homme. Voilà, donc j'avais un minimum de salaire qui m'a d'ailleurs un peu ruiné à Paris, mais c'est pas grave. Et je reste 5 ans à Paris en repassant donc à 47 ans à la Sorbonne des concours avec des gamins de 22, 23 ans qui avaient l'âge de mes propres enfants. Mais j'étais très contente, ça me passionnait. Moi, je retrouve les bouquins, etc. Puis je retrouve cet homme qui se libère, mais qui me dit toujours oui, oui. Enfin, on connaît la chanson. Il faut que ce soit elle qui demande le divorce, etc. Donc, quand moi, j'avais des obligations pour revenir à Nouméa, étant donné qu'on m'avait aidé dans mes études, j'ai dû remplir, comme toujours dans l'administration, mon contrat et repartir à Nouméa, puisque on m'avait payé des études, je devais un certain nombre d'années d'exercice, donc en Nouvelle-Calédonie. Et à ce moment-là, cet homme se trouve comme par hasard libre, et il vient, il me dit « il faut absolument qu'on se marie », etc. Bon, j'avais été très réticente pour nombreuses raisons, dont le fait qu'il avait 10 ans de moins que moi, c'était pas dans mes projets, mais enfin bon. Sinon, je ne reviendrai pas ici, on sera encore séparés, je ne serai jamais réaffectée en Calédonie, il faut absolument...
Oui, donc Daniel, donc il vous demande de vous épouser.
Et on se marie, en effet. On se marie, en effet, mais on est séparés pendant quelques années, parce que bien qu'on soit mariés, il ne revient pas en Calédonie, ou si ce n'est à ses frais, c'est-à-dire aux vacances, en été ou à Noël, ou moi, quand je pouvais aller là-bas. Et moi, j'avais des difficultés avec deux fils de 30 ans à l'époque au chômage, etc. Je revenais moins souvent à Paris que lui ne venait à Nouméa. Toujours est-il, j'ai pu revenir vivre avec lui à temps plein, si je puis dire, en 99, parce que j'ai pu postuler pour ma retraite. Donc, toute ma vie a été orientée depuis 32 ans pour lui et avec lui. Et là, il y a quelques années, donc, on a eu différentes affectations aussi en France, à l'Est, et puis à l'Ouest, et puis de nouveau à l'Est. Je l'entends un soir téléphoner. Moi, je m'étais endormie, je suis plutôt une couche tôt. Je me réveille, il n'est pas là. Je me dis, où est-il passé? Je vais dans l'appartement, tout était fermé, puis j'entends parler dans la cuisine. J'entends la conversation, ce qui ne laissait aucun doute, évidemment, de ses relations avec la personne avec qui il parlait. Donc, je rentre comme une folle dans la cuisine, absolument sidérée. Je n'avais pas imaginé ça un seul instant. Je vais vous dire que je suis quand même un peu naïve. Et en plus, il nie. Il nie complètement.
Qu'est-ce qu'il essaie de vous faire croire alors à ce moment-là?
Ah ben, alors je vais vous dire. Nous étions en Lorraine et il me dit « Ah, mais tu entends des voix ?» Sur à quoi j'ai répondu très facilement. Mais bien sûr, en Lorraine, c'est bien connu, tout le monde entend des voix. J'entends des voix. Bon, il a mis 6 mois à avouer la réalité. Mais la réalité, elle était encore pire que ce que j'imaginais. Parce qu'il s'est avéré que c'était un pervers narcissique et sexuel. Et que la réalité, c'était évidemment qu'il fallait prendre des femmes comme des objets. Je ne suis pas du tout ce genre-là, j'aime mieux vous le dire tout de suite. Et évidemment, quand il m'a proposé d'aller en boîte échangiste, ou etc., c'était niette. Et le pire, c'est que cet homme avait de gros soucis d'argent, qu'il ne gérait pas ses affaires. J'avais une procuration sur les comptes, puisqu'on était mariés, heureusement, en séparation de biens quand même, mais qu'il y avait des découvertes en permanence sur son compte que moi, je couvrais quand j'ai eu la succession de ma mère, et je ne savais pas où partait cet argent.
Mais avec qui il était au téléphone?
Avec une bonne femme qui faisait partie de son groupe de partouze.
D'accord.
Voilà, très simple. Mais ça, il a fallu, je vous dis, je fais vite, parce qu'il m'a fallu des mois pour comprendre une première chose, et puis encore un an de plus, puis trouver des écrits, et puis aller voir un psychiatre avec ses écrits qui m'a dit « Madame, vous êtes en danger, il faut fuir ». J'ai dit « Comment fuir ? Mais docteur, moi je connais cet homme depuis 27 ans, 28 ans, toute ma vie a été faite pour lui, il est hors de question que je fuis. » Il m'a dit « Madame, vous êtes en grand danger. » Et je n'ai pas très bien compris sur le moment.
En danger de quoi ?
Oui. Ben, en danger parce que je vivais avec un pervers qui me manipule et qui me fasse faire ce que je ne voulais pas faire, si vous voulez. Et j'ai été très secouée par ça. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide, toute cette histoire, et mon mari ne comprenait pas que j'étais très très mal, très 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 mal, et il a même, bon enfin j'insiste pas sur les détails, et ça a été très douloureux à cette époque-là. Donc, j'ai demandé le divorce en 2015, et puis une fois encore, il m'a manipulée, il était à quelques mois de sa retraite. Bon, je passe encore sur les détails, parce que si vous voulez, compte tenu de sa profession, à cette époque-là, je ne pouvais pas demander le divorce dans la ville où il exerçait. fallait que j'aille dans une autre ville, ce qu'on appelle dépaysée, ce qui m'a été facile. J'ai donc trouvé un avocat, je lançais une procédure là-bas. Et puis, il m'a manipulé, il m'a dit, mais quand même, après 30 ans, etc., on ne va pas se séparer maintenant, on va passer notre vieillesse ensemble, puisqu'il allait avoir 65 ans, donc moi, j'en avais pratiquement 75 aussi. Donc, j'étais très heureuse de cette solution, on va partir en vacances ensemble, parce qu'on partait en vacances en Bretagne, où il avait été affecté avant.
Et bon, où Daniel, vous divorcez pas il y a 3 ans?
Alors, non, il m'a récupérée. Il m'a récupérée, on est allé en vacances en Bretagne ensemble, mais moi j'étais très contente de ses vacances, mais lui pas du tout, parce que ce que j'avais pas encore bien compris, c'est que les vacances pour lui, c'était les partouzes. Quand j'ai dit, ah mais c'est, on a passé de bonnes vacances, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, ah bon, c'est ça que tu considères comme des bonnes vacances? Donc on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde, et alors là où c'est devenu grave, c'est que 3 jours après mes 76 ans, en novembre donc 2016, il me dit que j'aurais dû comprendre qu'il ne voulait pas que je le suive dans sa dernière affectation dans l'Est de la France. On était dans l'Ouest. J'aurais dû le comprendre. Ah ben, je lui dis, écoute, on vit ensemble, on peut se parler, on peut communiquer quand même. Il s'est mis à hurler, non, non, moi je ne communique pas, il faut deviner. Oh, je dis, excuse-moi, moi j'ai pas de boule de cristal. Il y a des choses que je devine pas. Il m'avait laissé tout installer l'appartement, tout payer, acheter des meubles, enfin, tout, sans jamais me dire stop ou bien. Non, rien.
Bah, et là, il me semble quand même, Daniel, qu'il y avait des warnings que vous n'avez pas voulu voir. Hein.
Absolument. Maintenant, je le vois parce que j'ai été suivie pendant pratiquement 5 ans par un psychiatre. Hein. Mm-hmm. Mais effectivement, maintenant, je revois les choses différemment. Mais quand je les ai vécues, je ne les ai pas intégrées tout à fait. Donc, il me dit tout ça comme si c'était évident. Ça m'a totalement bouleversée. Et je lui ai dit vraiment, tu es une ordure. Et je suis partie à ce moment-là dans une autre pièce, dans la cuisine. J'essayais de dormir. Il était encore 11h du soir. J'ai fait chauffer du lait et tout.
Non, Daniela, on ne va pas pouvoir raconter chaque détail comme ça, sinon on est dormi encore. Dites-moi l'essentiel.
Non, mais l'essentiel, c'est que ce soir-là, il a voulu m'étrangler.
Ah.
Il est venu m'étrangler.
Mais il avait bu?
Ah, pas du tout. Non. Alors lui, il ne buvait pas. Non, je ne prends pas toujours le même modèle, mais c'est toujours un cas quand même. Non, excusez-moi Sophie, mais j'ai des cas particuliers, mais ce n'est pas le même. Donc, il a voulu m'étrangler. Moi, quand même, j'avais 76 ans. Je suis sous hypertension. Je fais de l'asthme. Il fait 15 cm de plus que moi, qui fait déjà 1m65 et quelques kilos de plus, pas mal aussi. J'ai eu peur, je vous assure que j'ai eu peur. Terriblement peur. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure rapidement, j'ai créé une association pour les droits des femmes à Nouméa que j'ai présidée et animée, fait des émissions radio, etc. pendant 3 ans. Pour moi, une atteinte physique, parce que je ne savais pas encore ce que c'était qu'une atteinte morale, c'est une plainte. Il n'y a pas de problème. Donc le lendemain, je suis allée porter plainte contre lui. J'avais des bleus sur les bras, etc., parce que je m'étais protégée avec mes avant-bras, la main autour du cou et tout. Il n'a pas réalisé. C'était un lundi soir, le jeudi, il me dit, mais qu'est-ce que tu t'es fait au bras? J'ai dit, je me suis fait, c'est toi qui m'as fait ça. C'est toi qui m'as fait ça. Et c'était comme s'il avait zappé ça, si vous voulez, le déni. Encore une fois, le déni. Il a toujours été dans le déni de ce qu'il était, cet homme-là.
Mais comme le premier.
Oui. Le premier, il voulait paraître. C'était un peu différent, mais il y a des points communs. Vous avez parfaitement raison. Et donc, je lui dis, c'est toi qui m'as fait ça. Ah, il me crie alors, tu pourras porter plainte, parce que nous sommes quand même juristes tous les deux. Ah, j'ai dit, t'inquiète pas, c'est déjà fait. Mais il ne m'a pas cru. Et donc, quelques mois après, en janvier, c'était assez long, il a reçu une convocation de la police pour être interrogé. Et 8 jours après, il m'a dit, je m'en vais, il est parti. Et c'est lui qui a demandé le divorce. À l'issue de l'audience que j'ai faite, moi, j'ai été ma propre avocate, parce qu'il est parti sans verser la moindre contribution, évidemment, aux ressources du ménage, en arrêtant tous les prélèvements automatiques et tout ce que j'avais organisé. Donc, je l'ai assigné en non-contribution aux charges du ménage. Et à l'issue de l'audience, j'apprends qu'il demande le divorce. Je ne l'ai pas revu, si je l'ai vu aux audiences depuis, mais c'est tout. Donc, j'aime mieux vous dire que je vis tout ça très, très mal. D'autant que, bon, ben, vous avez compris un peu qu'à travers ma vie, j'ai beaucoup déménagé. Là, il a fallu que je quitte l'appartement que nous louions pendant qu'il était en activité dans l'Est pour revenir dans mon petit pied-à-terre en Bretagne, dans le Morbihan, dans une ville au bord de la mer, qui est un petit pied-à-terre de 47 mètres carrés, alors que moi, j'avais l'habitude de vivre dans des grandes maisons, 125 mètres carrés et autres. J'ai dû laisser derrière moi tous les meubles, parce que les grands meubles, les bibliothèques, j'avais une bibliothèque de 5 mètres de large, ça ne se vend pas, j'ai perdu un argent fou. J'ai donc tout fait toute seule, parce que maintenant, je suis sans argent, avec des complications sans nom, puisque la procédure se déroule dans l'Est et j'habite dans l'Ouest. J'ai une avocate qui ne me répond pas. Les avocats que je contacte pour essayer de remplacer celle-là qui ne me convient pas, qui ne me donne pas les informations, me disent « Ah, on est désolé, mais on a beaucoup trop d'admiration pour votre mari, on ne peut pas vous prendre comme cliente. » Oui. Et j'ai fait donc une très très grosse dépression, je suis encore sous antidépresseur et je ne sais pas où me mène cette procédure que je suis obligée de suivre. Je n'ai pas les moyens de l'arrêter puisque dans les derniers textes de loi, la loi qui est applicable depuis le 1er janvier 2017, si vous avez accepté le principe du divorce, c'est-à-dire sans rechercher les torts de part et d'autre, vous ne pouvez plus revenir en arrière et il n'y a plus de pension alimentaire à vie.
Donc là, le divorce n'est pas encore prononcé.
Le divorce est en cours, il n'est pas encore prononcé, je ne sais pas s'il va aller jusqu'au bout ou pas, et moi je ne peux être que passive et suivre s'il va jusqu'au bout, mais s'il va jusqu'au bout, étant donné ses difficultés de relation avec l'argent et le peu de capital qu'il a, j'aurai un capital minime, d'autant plus qu'il ment évidemment tant et plus pour diminuer les valeurs de ce capital, hein. Ça il connaît bien la procédure, et donc moi je me demande comment je vais vivre dans mes très vieux jours. Et
mais quand vous dites s'il va jusqu'au bout, pourquoi vous espérez encore qu'il n'aille pas jusqu'au bout de la procédure?
Je ne sais pas. Il n'est pas obligé. Il n'a pas forcément intérêt. Hein, parce que précisément, comme maintenant, il n'y a plus de pension alimentaire jusqu'à la fin de vie de l'un ou de l'autre, il peut très bien s'arrêter là, considérant qu'il n'a pas intérêt à avoir un capital à me verser.
Qu'est-ce que vous voulez, vous?
Moi, je voudrais en avoir que des mensualités, parce que je connais cet individu qui a eu des découvertes épouvantables. En plus, j'ai couvert ces découvertes.
Non, ma question n'est pas là. Ma question est s'il ne va pas jusqu'au bout de la procédure du divorce, vous seriez prête.
Eh bien, on reste comme on est. Ça, c'est bien plus avantageux.
En fait, c'est les problèmes d'argent là, qui vous inquiètent plus que tout.
Ah, pas seulement, parce que c'est un homme, comme je vous l'ai dit, que j'ai vraiment adoré, qui est extrêmement brillant, extrêmement cultivé, extrêmement intelligent. Je crois qu'on avait 5000 livres à peu près chez nous. J'ai dû laisser la plupart de mes livres les revendre, mais ça vaut rien du tout. Enfin, moi, je suis venue ici avec un minimum de choses. Et puis surtout, alors le point important, c'est que je me sens complètement exilée en France maintenant, parce que je suis revenue pour lui, pour vivre avec lui.
Mais tout en me disant qu'il est addict au sexe, au partout, ce qui vous a battu. Donc il y a quelque chose de très contradictoire dans la manière dont vous parlez de lui.
Mais c'est pas contradictoire du tout. Il m'a pas battu, il a voulu m'étrangler, mettre les mains autour de mon cou. Bon, c'est arrivé une fois, mais ça a été une fois de trop, puisque je vous ai dit, j'ai porté plainte. Mmh. Et en même temps, mais oui, mais c'est un pervers, il a 3 ou 4 personnalités. C'est un personnage complètement clivé, extrêmement séduisant. Très, très séduisant d'ailleurs physiquement et puis intellectuellement. Des gens comme lui, vous n'en trouvez pas beaucoup, hein, qui soient brillants comme ça, etc. Très, très, très brillant. D'ailleurs, quand je suis partie, on m'a dit, mais vous étiez le... Ah ben oui, je ne peux pas vous dire la vie où vous étiez. Bon, c'est pas grave. Donc, nous étions un couple qui se faisait remarquer. On a même été arrêtés dans la rue, etc., pour ça, il y a quelques années. Et on ne trouve pas des gens comme lui. Il est assez exceptionnel, d'où d'ailleurs la réaction des avocats. Quand je veux les saisir, on me dit, ah non, votre mari, on ne peut pas aller contre lui, ce n'est pas possible, on l'admire trop. Mais ça n'empêche pas que, si vous voulez, les partous et tout ça, il m'a dit qu'il avait toujours été comme ça. Mais je lui dis quand même, tu aurais peut-être pu me le dire avant qu'on se marie et à me faire chambouler toute ma vie. Ça ne lui vient pas à l'esprit, vous voyez. C'est quelqu'un qui dissimule tout sous un charme extraordinaire, mais qui cache complètement tout ce qu'il est. D'ailleurs, qui parle très peu de lui. Il va vous parler de Flaubert, il va vous parler de Nietzsche, il va vous parler de Verdi, parce qu'il est très brillant dans la musique, notamment l'opéra. Il va vous parler de choses comme ça, totalement intellectuelles ou artistiques, mais il ne parle pas de lui, parce que il n'a pas grand-chose à dire de lui. Ce qu'il
Mais vous,
a à
vous
dire...
Daniel, ce qui n'est pas votre cas, vous, Daniel, vous avez envie de quoi aujourd'hui?
Je vous l'ai dit, rester où j'en suis, c'est-à-dire séparation de corps et séparation de biens, comme on l'a toujours été, mais pas de poursuivre jusqu'au bout, parce que ça ne compliquerait que...
Mais malheureusement, ça ne dépend pas de vous.
Absolument, ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi, puisque j'ai fait la bêtise, encore une fois, d'écouter ces bobards-là et d'arrêter la procédure que moi, j'avais engagée plus tôt. Mmh. Voilà. Donc, je suis toujours celle qui a été eue, quoi, comme on dit. Voilà, et c'est assez épouvantable, parce que je n'imaginais pas, à 78 ans, me trouver dans une situation comme ça. Je ne sais pas si je ne vais pas être la plus âgée personne qui divorce dans les archives de la Cour de cassation.
Ben vous êtes bien placée pour faire des recherches et trouver ça comme information.
Ben, tout à fait. Déjà, je sais que mon divorce de 7 ans, ça ne s'était jamais vu qu'il avait duré 7 ans le premier. Mmh. Hein. Je ne sais pas. Non, mais c'est assez épouvantable, je vous assure, je vis ça. J'ai vécu dans l'angoisse. Bon, ce n'est pas toujours passé d'ailleurs, malgré mon petit dépression.
Vous voyez quelqu'un en ce moment?
Hélas, donc, parce que. Alors. J'ai dû quitter l'Est et c'est mon 40e déménagement que j'ai fait pour venir ici. 40e déménagement. Chaque déménagement, ça coûte un argent fou. C'est usant. J'ai fait tous mes cartons toute seule. Je les ai défaits toute seule. Bon, ça m'a entraîné de l'arthrose que j'avais pas. Et puis, comme je vous ai dit, moi, j'ai quitté la France pendant 40 ans. Mes sœurs ont eu d'autres vies. On a des souvenirs d'enfance.
Je vous demandais juste si vous voyez quelqu'un en ce moment. Je parle d'un thérapeute.
Non. Je vous ai dit non, j'ai vu quelqu'un à Nancy et ici j'ai personne. C'est impossible. J'ai essayé de voir quelqu'un ici. J'ai essayé 5 hommes parce que je préférais des hommes. Ils sont tous un peu taravana, comme on dit à Tahiti. Ils flottent, quoi. Ils sont complètement hors de ce que j'attends d'eux, de toute façon.
Qu'est-ce que vous attendez d'un thérapeute?
Eh bien, j'attends qu'il soit un peu comme celui que j'avais antérieurement. Je suis restée 5 ans avec cet homme. Je n'ai pas envie de tout recommencer avec quelqu'un d'autre. Et puis, ils ne m'ont pas convenu. Hein, qui me dit, ah ben oui, j'ai été à Nice, mais il y a des ondes très mauvaises à Nice. Enfin, des machins qui sont complètement tordus. Un autre qui me dit, la première fois que je le vois, bon, alors le nom de votre premier mari, le nom de vos enfants, le nom des maris de vos enfants, vos rapports sexuels, avec qui est-ce que c'était votre mari ou quelqu'un d'autre. Je lui dis, docteur, je ne réponds pas à des questions comme ça. Moi, c'est très simple. Je ne viens pas voir un commissaire de police, je vais voir un psychiatre, si vous dire.
Non. Oui, bon, ils ne vous ont pas convenu, en tout cas, j'entends ça.
Pas convenu, voilà. Donc, tout à fait, c'est ça. J'ai besoin de quelqu'un à qui je parle, vous voyez, c'est sûr. Mais j'en avais eu un qui était très bien. On a essayé quelque temps des entretiens téléphoniques. Ce n'est pas éternellement possible. Mais,
donc, aujourd'hui, vous n'avez personne. Bon.
Aujourd'hui, je n'ai personne. Et il y a des moments où je suis très mal, très mal, parce que je revois toute ma vie en me disant « mais t'as tout gâché, ma pauvre fille, complètement, tout gâché, il n'y a rien qui est positif dans tout ce que tu as fait, ta vie professionnelle, bon ben elle a été hachée, puisque avec tous les déménagements, avec mon premier mari, j'ai pas pu faire des carrières, et je m'en ressens au niveau de ma retraite, bien sûr, alors que j'ai toujours travaillé, quand j'étais en Afrique, il n'y avait pas de caisse de retraite pour les gens qui étaient recrutés sur place, donc toutes mes années de travail en Afrique ne comptent pour rien.
Mais c'était des choix de vie, Daniel. Vous avez quand même aussi vécu de très beaux moments. Là, je pense qu'en étant un peu en dépression, vous voyez les choses en noir.
Oui.
Mais vous avez quand même une vie atypique, des enfants, des voyages, des beaux souvenirs.
Une vie très riche dans les rencontres.
Une vie riche socialement, une vie riche intellectuellement,
C'est ce que tout le monde me dit dans les gens différents que j'ai rencontrés. J'ai d'ailleurs tous mes grands amis, ils sont vivants.
Écrivez tout ça, ça vous ferait du bien aussi. Ça.
On m'a dit, surtout que j'adore écrire. J'ai fait plusieurs ateliers d'écriture. Non, mais je vais vous dire pourquoi je n'écris pas. Parce que je suis aussi quelqu'un de très sociable. Et si j'écris, je vais être enfermée dans ma bulle, ce que je ne veux pas. Là, je vous disais il y a 2 minutes que j'étais exilée en France, puisque ma famille, elle n'existe plus pratiquement. Hein, j'ai rien de commun avec mes sœurs, on a eu des vies trop différentes. Mes enfants, je ne les vois pas. J'ai vécu 40 ans ailleurs. Mes bons amis, ils sont à Nouméa. Et heureusement, ils viennent encore me voir tous les ans en France, là où je suis. Et ils me téléphonent très fréquemment, une heure et demie depuis Nouméa. Mais dans la petite ville bretonne où je suis, je fais plein d'activités depuis un an que j'y suis. Je joue au bridge, je fais de la peinture, prends des cours d'italien, je vais à des conférences de philo, je fais de la gym. Eh bien, je n'ai pas été invitée une seule fois depuis un an que je suis ici. Si mes deux anciennes copines, puisqu'on avait vécu ici il y a quelques années, et on se voit en tête à tête, entre amis, quoi. Mais moi qui ai eu une vie assez sociale, assez riche, je n'ai pas été invitée une seule fois depuis 13 mois que je suis ici. Et moi, c'est épouvantable pour moi d'être dans la solitude totale comme ça. Je reste 15 jours sans un coup de fil. Si ce n'est pas moi qui appelle, on ne m'appelle pas. J'entends très souvent des femmes, justement seules, surtout des femmes plus que des hommes, mais il y en a eu quelques-uns aussi. Vous aviez il y a quelques jours un homme adorable.
Daniel, ça fait presque une heure qu'on est ensemble, là, les informations ont arrivé. J'espère que ça vous a fait du bien de parler pendant une heure. Moi, je vous conseille vraiment d'écrire. Écrire, c'est pas s'enfermer dans sa bulle, parce qu'à un moment donné, quand les autres liront ce que vous avez écrit, vous sortirez de votre bulle. Vous verrez.
Non, mais ils liront pas, parce que parce que je veux faire d'autres choses et je veux rencontrer des gens. Et puis, j'aimerais bien aussi continuer à voyager. Bon, ça, c'est une question de moyens. Mais je veux pas écrire, alors que j'aime beaucoup ça. Mais j'écris des pages, pas un bouquin. Merci en tout cas de votre écoute.
Prenez soin de vous, Daniel.
Merci beaucoup, Sophie. Bonne soirée à tous.
Je m'appelle Sabine, mais c'est pas grave. Au revoir.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Encore ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin sur cette libre antenne qui est la vôtre. Si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez encore nous appeler au 3921. Amandine et Hassan sont là, ils sont au standard, prêts à vous accueillir. Et par SMS, je vous rappelle que vous faites le 739-21 en commençant par le mot nuit. A tout de suite.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et nous allons faire maintenant la connaissance de Camille. Bonsoir Camille.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur cette antenne, Camille.
Oui, merci beaucoup. Voilà, moi je vous appelle de Strasbourg.
Ouais.
Et voilà, je voulais remercier, c'est un petit témoignage que je veux faire, mais remercier tous les Français qui nous ont soutenus.
Je vous sens très émue. Hein.
Oui.
On l'est tous, on est évidemment de tout cœur avec vous.
Voilà, et comme moi je l'ai été pour vous... tout ce qui s'est passé à Paris. Voilà, aujourd'hui, c'est Strasbourg, c'est la province qui est touchée. Je voulais vraiment vous remercier, en tout cas, remercier tous les Français pour leur témoignage.
C'est l'humanité qui est touchée, moi, je dirais, vous savez.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, et c'est pour ça aussi, en fait, j'ai souhaité vous appeler parce que j'étais un petit peu, peut-être égoïste au travers de ma peine. Mais cette peine qui doit tous nous toucher, parce que il y a une très très belle commémoration ce matin à Strasbourg.
Ouais.
Et puis je n'y étais pas. Hein. Moi, j'y suis allée vendredi soir au centre-ville. Voilà, j'ai pris mon courage. Je suis allée témoigner ma douleur. Mais ce qui me désole, c'est de voir les infos. Mais je vous redis, je suis peut-être un petit peu égoïste, forcément par rapport à ce qui nous touche là. Mais je vois les infos, je vois Miss France, je vois les Gilets jaunes, et puis on passe vite sur Strasbourg. Et en fait, c'est le fond de ma pensée, c'est ça. C'est ce qui me désole, c'est que on passe vite sur tout.
Oui. On n'a pas pris le temps de se poser assez, vous pensez?
Ouais, c'est ça. On passe vite sur tout. On passe d'une info à une autre. On mélange tout. Et moi, je comprends que les gens s'en sortent plus. Vous voyez, il n'y a plus de repères, en fait.
On est dans un monde de zapping permanent. Hein.
C'est ça.
Et c'est vrai, quelle que soit l'intensité ou la gravité d'une situation, on passe d'une information à une autre avec pratiquement une sorte de moulinette. C'est-à-dire, ça va tellement vite qu'on n'a plus de hiérarchie d'importance. Ou de profondeur, je ne sais pas si je m'exprime clairement.
Tout à fait, il n'y a plus de valeurs, elles sont où les vraies valeurs, c'est ça. Est-ce qu'on se pose à un moment donné sur voilà, la France est endeuillée, est-ce qu'on a pris le temps de se poser comme au Bataclan? C'est-à-dire que bien sûr on voit, on a parlé de nous, on a parlé du Bataclan, des Parisiens, mais est-ce qu'on a pris le temps? Non, c'est toujours voilà, de l'info, poids des mots, enfin pour pas reprendre la pub, je sais pas qui disait
Ça.
Il n'y a
pas que le magazine, hein, c'est vrai que
le poids des mots, le choc des photos, vous voyez, et tout va très très vite et on passe d'une chose hop à une autre, hop, et tout va vite, et puis l'humain, en fait c'est ça le drame, c'est que l'humain se perd là-dedans. Il y a eu vraiment une très très belle commémoration ce matin. Il y avait voilà, une unité de gens en peine, mais qui était ouverte d'ailleurs au monde entier, hein, dans cette peine qu'on a eue, bien sûr pour les Strasbourgeois et pour ce qu'on a vécu, mais c'était en fait, on était dans un... Notre cœur était ouvert au monde.
C'est ce que je vous disais, c'est l'humanité entière qui est touchée quand il y a un attentat comme ça, bien sûr. Et vous pensez que les médias n'en ont pas assez parlé aujourd'hui?
Non.
Oui.
Moi, je pense que... voilà, sans remettre en cause le mouvement des Gilets jaunes, j'y adhère en partie, voilà, mais enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais voilà, on est vite repassé aux Gilets jaunes, il y a eu Miss France qui a fait toute l'actualité sur toute la une des infos.
Oui, ça s'est télescopé au mauvais moment, cette histoire, ça c'est sûr.
Et est-ce que Miss France aurait dû être aujourd'hui... sur l'ouverture de tous les médias? Je crois pas. C'était pas la priorité.
Oui, je peux entendre que c'est un choix rédactionnel discutable, effectivement. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et ça, je le regrette. Et sans remettre en cause, la vie, elle continue avec tout ça. Mais si vous voulez, par rapport à ce choc, ça me blesse aussi.
Ouais.
Parce que je me dis, bah, du coup, on n'avance pas, on ne comprend rien, on continue, vite.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus depuis des années dans notre société le temps du deuil.
Oui.
Le temps de prendre le temps d'accompagner un deuil et de commencer son propre deuil. Que ce soit à niveau national ou à un niveau personnel, c'est souvent comme ça. Vous vous rendez compte qu'en France, quand on perd un enfant, on a droit à 2 jours de congé pour raison personnelle?
Oui.
Et au bout de 2 jours, on est sommé de passer à autre chose.
Voilà.
On n'a plus le temps, jamais le temps de rien. Et on s'étonne d'aller mal, on s'étonne d'être en dépression, de ne pas arriver à surmonter les deuils. Là, je comprends complètement votre point de vue là-dessus, hein, vraiment. Ça va trop vite. On enchaîne et on ne se pose pas sur les choses importantes, on ne prend pas le temps.
Donc, du coup, tout tombe dans l'oubli. Voilà, et puis malheureusement, demain il y aura un autre attentat. Et je le vivrai bien sûr autrement, puisque je l'ai vécu à Strasbourg, mais je penserai à ça et ça me fera de la peine que les médias passeront très vite à autre chose.
Est-ce que vous avez été personnellement touchée ou est-ce que vous connaissez des gens qui ont été touchés à Strasbourg?
Moi j'ai été touchée dans le sens où mon fils habite plein centre-ville. Bon, moi, j'habite à 7 km à vol d'oiseau.
Mmh.
Et j'ai vu, enfin, j'ai pas vu, j'ai entendu tous les hélicoptères passer. À 2h du matin encore, j'entendais que ça tournait autour de moi. Donc, pour vous dire que j'ai pas trop dormi, j'ai appelé mon fils qui me répondait pas. Donc, j'ai été très, très inquiète.
Oui, j'imagine.
Qui lui habite en plein centre de Strasbourg. Et j'ai une autre amie qui était confinée.
Oui, donc il y a eu des heures d'angoisse quand même, hein.
Oui, il y a eu des heures d'angoisse, bien sûr.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que je vais vous dire, parce que quand j'entendais, j'ai vécu ça à la télé, je vous dis, mais j'habite à 7 km à vol d'oiseau du centre-ville, et j'entendais les hélicos tourner, et à un moment donné, je suivais tout sur BFM, LCI, etc. Et j'ai ouvert mes fenêtres et je les ai vus, les hélicoptères. Je les ai vus autour, au-dessus de mon ciel. J'ai vu les lumières et là, je me suis dit, mais réalise, Là, tu n'es pas dans une fiction, tu n'es pas dans un film.
Et oui, ça prend une toute autre dimension, là, évidemment.
Voilà. Et d'ailleurs, je me disais, je vais couper les médias parce que, à force de tout vivre de manière intermédiaire, au travers des. Que ce soit Internet ou la télé, on ne prend plus conscience des choses. Mm. C'est ce que j'ai réalisé aussi.
On a presque l'impression de devenir spectatrice, c'est ça que tu voulais dire ?
Oui, c'est ça. Ouais. Je me suis dit, mais non, tu n'es pas au spectacle, c'est vrai, ils sont là. Lève les yeux, tu les vois, voilà. Tu entends les sirènes, tu entends. Et alors, excusez-moi, je suis très émue, mais c'est ça aussi qui me fait mal de voir passer par là pour comprendre qu'on est, on prend plus le temps. Et je m'en suis rendu compte pour moi aussi. C'est-à-dire que j'étais devant les médias et j'ai dit mais non, c'est là, tu le vois, tu l'entends. Et on est complètement abruti, en fait. Voyez,
on est presque anesthésié devant l'écran, oui.
Anesthésié, abruti, et c'est pour ça que je disais aujourd'hui, au travers de ce que je vous dis, au travers de ce que j'ai vécu aujourd'hui sur toutes les chaînes de télé, je dis c'est dommage. Voilà, Strasbourg aurait dû faire vraiment la une. Il y a eu de très beaux chants, il y a eu de très beaux textes. Qui appelle à l'amour et à l'humanité et au respect de l'autre et à la paix, et ça, on ne le passe pas. Mais voilà, j'ai rien contre France, mais voilà, il y avait une priorité, c'était ça. Ouais.
L'image que vous donnez est très belle, c'est-à-dire que pour 99% des gens, ce qui s'est passé, c'était pour nous, mais même pour moi à Paris, c'était sur un écran de télé. Et ensuite, on coupe la télé, on fait faire autre chose. Vous, vous coupez la télé, vous ouvrez la fenêtre et c'est la vraie vie, là, pour le coup.
C'était la vraie vie.
Et le décalage, il est vraiment là. Donc, vous avez pris ça de plein fouet, bien évidemment.
Oui.
Ce qui explique aussi cette ultra-sensibilité dont vous faites preuve là ce soir. Je pense que, est-ce que quand même vous envisagez de voir quelqu'un, un thérapeute, pendant ne serait-ce que 2-3 rendez-vous pour évacuer un peu tout ça ?
Oui, mais je vous en parle. Oui. Vous voyez, je vous en parle, j'en parle. Je parle de ce que je ressens. Mais
c'est important. Votre fils l'a vécu comment, d'ailleurs ? Lui qui est une génération avant.
Ben, c'est.
Après,
alors, mon fils, il a vécu comme beaucoup de jeunes, ils sont hors temps. Hors temps, tout va bien. Quand il m'a répondu à pas loin de 23 heures, il m'a dit t'inquiète pas, j'ai mangé une raclette.
Ah oui.
Alors, je lui ai dit, mais c'est pas ce que je te demande. Tu es où ? Tu es où ?
Éventuellement,
tu fais quoi ?
Il se passe 2-3 trucs en ce moment.
Voilà, mais et ça aussi, ça me désole. Je me pose la question, mais qu'est-ce que j'ai raté ? Et quand je lui en ai reparlé, il m'a dit, mais il n'y a pas de problème, je suis là, tu vois que tout va bien. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai raté pour pas sensibiliser mon fils à mes angoisses ? Et je peux comprendre que lui veut se protéger aussi par rapport à ça, vous voyez ?
Quel âge a-t-il ?
23 ans.
Et oui, mais la différence par rapport à nous, Camille, c'est que lui, depuis qu'il est né pratiquement, on parle d'attentats.
Oui, c'est vrai aussi.
Ces enfants-là, nos enfants, depuis qu'ils sont petits à la télé, ils voient, c'est pas normalisé, mais presque. Ils n'ont pas connu un monde sans ça comme nous.
C'est vrai.
Et donc effectivement, ils sont probablement un petit peu moins angoissés parce que c'est quelque chose qu'ils ont intégré comme, ben voilà, ça arrive. Ok, bon, ben moi je vais bien, je vais manger une raclette, la vie continue. Alors que pour nous, voilà. Ça reste quelque chose de quand même extrêmement violent, quoi.
Et c'est terrible parce qu'on s'est un petit peu fâchés à cause de ça, parce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, mais est-ce que tu comprends que moi, j'étais angoissée, je suis ta mère, c'est aussi mon rôle de maman, de m'inquiéter pour toi, c'est normal.
Il comprendra le jour où il sera papa.
Oui.
Rassurez-vous, vous n'avez rien raté de particulier, c'est juste qu'il est à un âge où c'est comme ça, quoi.
Mmh. Il est encore. Et le dimanche d'avant, il était chez moi et... Il est parti tard et je lui disais, fais attention, je ne suis pas une maman, je ne veux pas l'angoisser, mais je veux l'alerter. Et je lui dis, fais attention, il devait prendre le tram, tu rentres comment ? Bon, tu prends le tram, je lui dis, fais attention, sois pas provocateur. Si tu vois des gens un petit peu louches, oui. Écoute, tu passes, ne les regarde pas dans les yeux. Tu sais, aujourd'hui, n'importe qui peut sortir un couteau. Il me dit, mais t'inquiète pas, maman. Alors là, il m'a dit, t'inquiète pas, maman. De toute façon, je suis pas dans la provocation, je les regarde pas. Donc, il a conscience.
Oui.
Et puis, c'est tombé finalement, malheureusement, il y a eu ce drame 2 jours après, vous voyez.
Oui. Il y a une autre question que je me suis posée après l'attentat à propos des jeunes, c'est les jeux vidéo. Est-ce que certains qui ne sont pas dans un milieu où ils sont éduqués à côté de ça, à côté des jeux, est-ce qu'ils comprennent bien que ce qui se passe là, ce n'est pas un jeu vidéo, c'est la vraie vie, quoi ? Que cette violence-là, elle n'est pas juste sur un écran et qu'on passe à autre chose juste après. Vous voyez, on parlait de zapper tout à l'heure. Je m'inquiète aussi de ça, moi, de demander si les
jeunes sont pas... Vous avez parfaitement raison, parce que moi, j'en ai...
Une banalisation de la violence, si vous voulez.
J'en ai beaucoup, beaucoup parlé autour de moi à des amis qui sont complètement d'accord avec moi. C'est ça, on a tout est banalisé, en fait.
Où est la frontière entre le jeu vidéo et la réalité dans leur esprit, quoi.
Mais tout est banalisé, je vous dis. Les infos, on passe d'une chose à une autre. Vite, les jeux vidéo, les gamins, c'est des jeux de violence, des jeux de guerre, donc...
Si on n'a pas un entourage familial, des parents qui permettent une éducation et un pas de côté, c'est compliqué. Hein. C'est de plus en plus compliqué, ça.
C'est très compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Et je peux comprendre qu'aujourd'hui, un ado, et pour peu qu'il soit un petit peu, comme tous les ados, en souffrance ou qu'il y ait d'autres problèmes, il est dans ses jeux vidéo de guerre, mais le gamin, il est paumé, il est perdu.
C'est-à-dire
il
que ces images de violence sont devenues tellement banales pour eux que ça les choque même plus de les voir en vrai à la télé, quoi.
C'est ça que vous savez, Sabine, moi, il y a aussi beaucoup de choses qui me mettent un petit peu en colère. Hein, et la colère, ce n'est pas une faiblesse. C'est
la violence qui est une crime pour moi.
Moi, je suis en colère parce que j'ai pas de marge de manœuvre. J'en ai une ce soir, pouvoir vous parler. Mais quand vous voyez la télévision, on dit interdit au moins de 10 ans. Mais vous avez vu ce qu'ils interdisent au moins de 10 ans? C'est ce qu'à mon époque, on aurait interdit au moins de 40 ans.
Ouais. De toute façon, ça ne sert pas à grand-chose. Quand on a le dos tourné, ils regardent ce qu'ils veulent.
Oui,
mieux vaut être dans l'explication et l'accompagnement et le dialogue que d'interdire quoi que ce soit, ça ne sert plus à rien.
Oui, mais vous voyez, je veux dire, le CS1, je ne suis pas du tout d'accord avec
eux.
Oui,
vous voulez dire que le niveau de tolérance est beaucoup trop bas.
Mais beaucoup trop bas. Ouais. Il y a des choses choquantes. Interdit au moins de 10 ans, c'est choquant. Et si les parents ne sont pas à côté pour interdire ou expliquer, on perd nos enfants. J'ai discuté avec ma fille, elle a fait un an d'études à Londres. On parlait aussi, suite à ça, l'uniforme dans les écoles. Mes enfants étaient en école privée. Et voilà, pourtant j'ai été une femme seule divorcée. Et pour faire d'ailleurs... un clin d'œil à votre auditrice précédente. Moi, je me suis beaucoup battue avec la justice. Mon ex-mari a été condamné à payer une pension alimentaire. Il n'a jamais payé. Bon, bref. À un moment donné, il faut lâcher prise parce qu'on ne s'en sort pas. Voilà. Là aussi, un souci. Ce n'est pas le problème, mais je me suis battue et mes enfants étaient, suite à mon divorce, dans une école privée parce que pour moi, c'était plus simple. Je les pensais mieux encadrés. Ça me rassurait, en fait, aussi, si vous voulez. Et cette école très élitiste pour des bacs scientifiques, maths, etc., avait dit, on va mettre l'uniforme. Et moi, j'avais dit, c'est très, très bien. Et moi, je pense que là aussi, il serait peut-être temps en France, qui est l'uniforme à l'école.
Vous savez que c'est un débat qui revient régulièrement sur le dessus de la table. Hein. J'étais assez surprise, parce que je vous avoue que moi, spontanément, je n'étais pas tout à fait convaincue. Et qu'en fait, en en parlant avec beaucoup de jeunes, je me suis rendue compte que ça leur plaisait bien, en fait. Curieusement.
Oui. Et alors, ma fille m'a dit, « Maman, à Londres, il n'y a pas de téléphone portable dans les écoles. C'est interdit même pour les profs. Ils ont tous un uniforme et ça ne pose aucun problème. » Elle me dit, « Au contraire, c'est pas du tout... les empêcher de s'affirmer tels qu'ils sont dans leur personnalité.
Non, mais c'est mettre les valeurs, c'est mettre les valeurs ailleurs que dans les marques, quoi, aussi.
Voilà, et comme ils ont tous l'uniforme, eh bien, ça te permet de te dégager autrement intellectuellement.
C'est ça, on juge sur ce qu'on est, pas sur ce qu'on montre, ce qu'on a.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Mais je sais bien, aussi, c'est vrai qu'on en reparle régulièrement, mais je vois pas de changement à l'école, moi, franchement.
Mais moi, j'aimerais bien, alors voilà, je vous parle ce soir, mais j'aimerais bien que qu'on m'entende et que des mamans en parlent. Et il faut bien comprendre, l'uniforme, c'est pas rabaisser l'élève, Ils ont tous une intelligence, ils ont tous un caractère, ils ont tous les moyens de se défendre, justement de s'affirmer au-delà d'un, d'un uniforme et pas justement qu'il y ait des guerres. Moi, je me rappelle ma fille dans cette école privée à Strasbourg, je vous assure, il y a des gamines de 12-13 ans qui sont avec des sacs Chanel.
Oui, je sais. Mais là, on s'éloigne un peu de votre
oui,
message.
Oui, on s'éloigne, non, mais, là, mais juste pour vous dire, voyez, alors, mais ça aussi, on donne. On s'éloigne, mais en même temps, elles sont où les valeurs des jeunes? Puisqu'ils n'en ont même plus à 13 ans.
Ouais, c'est vrai.
Ils sont déjà dans les marques, dans la mode, ils sont dans un autre monde, on est dans l'irréel, on n'est plus dans les valeurs. Quand est-ce qu'on. Comment on va apprendre à ses enfants à travailler, à se battre dans la vie?
En étant là pour leur apprendre, nous. C'est important, ben oui. Aussi, c'est important aussi. Et je sais que vous le faites avec votre fils. Camille, oui. Merci de votre appel. Je vais être obligée de vous laisser parce qu'on a beaucoup de monde derrière.
Oui, mais je comprends.
On a tous une pensée et une lumière pour vous à Strasbourg.
Oui, ben je vous remercie beaucoup.
Du cœur, hein,
je le sais. Merci hein, à vous, à tous les Français. Merci de nous soutenir. Et soyons un petit peu unis hein, dans cette France-là.
Merci d'avoir fait passer ce message.
Redonnons un petit peu humain. Hein. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous.
Je vous embrasse.
Bonsoir.
Au revoir.
Merci.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Bonsoir Viviane.
Oui, bonsoir Sophie.
Non, Sabine.
Bonsoir.
Bonjour.
Sabine, pardon.
Je vous écoute.
Oui, voilà, je vous appelle parce que je suis un peu perturbée par une situation que je vis depuis quelques mois.
Oui.
Donc, cela fait 4 mois que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il était en échéance de divorce avec... bon, il m'a un peu mise, comment je veux dire, en confiance, en me racontant ses soucis personnels. Et puis, bon, m'a présenté à son fils... où nous échangeons des repas, des sorties, des balades et tout ensemble. Nous allions faire des courses ensemble et tout.
Juste pour comprendre, vous l'avez rencontré comment, ce monsieur?
Alors, je l'ai rencontré dans une garden party.
D'accord.
Donc, c'est vrai que je suis tombée tout de suite sous son charme parce que, bon, c'est un monsieur qui était déjà dans ses gestes, qui était très fin, très...
élégant.
Très élégant, donc ça m'a plu. Et puis, bon, il a eu à m'inviter deux fois. Et puis après, il m'a présenté à son fils. Mmh. À son fils, où nous avions échangé du repas ensemble et tout.
Mmh.
Et il m'a mise en confiance en me disant que j'avais carte blanche pour le choix des rideaux chez lui et tout. Bon, bref. Et puis, je pouvais monter chez lui quand il me demandait, donc il n'y avait aucun souci.
Mais attendez, chez lui, mais en instance de divorce, elle était où, ça, son ex-femme, sa future ex-femme?
Elle vit chez elle, puisque ça fait déjà 2 ans et demi qu'ils sont séparés.
D'accord, donc l'appartement était le sien.
Oui, la maison, c'est une maison qu'ils ont construite à deux,
ouais.
Mais il a pu obtenir la garde de son fils et la maison, il a pu obtenir la maison et il rachète, il doit payer à sa femme l'autre partie. Pour le moment, c'est lui qui paie son crédit.
D'accord. Mais vous étiez, donc, vous, la bienvenue dans cette maison, d'après ce que j'entends?
Exactement.
D'accord.
Exactement.
Ce qui est plutôt, donc, plutôt agréable.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, ça m'a mise un peu en confiance.
Mmh.
Et tout, et jusqu'au dernier moment, je pensais que c'était un homme fidèle. Bon. Et je me suis rendu compte que j'ai trouvé des préservatifs, des choses et tout. Donc, sous le coup de l'humour, je lui ai fait la remarque. Et puis, un jour, je cherchais à le joindre et je n'arrivais pas à le joindre. Donc, je lui ai un peu demandé qu'est-ce qui se passait. Je ne l'ai pas eu de l'après-midi. Et il s'est senti fliqué. Et il m'a demandé de ne pas lui parler comme ça, qu'il n'attendait pas cette réaction de ma part. Enfin, moi, je me suis retrouvée tout de suite mise en victime.
Mais oui, moi, c'est une façon de fuir et de ne pas assumer la réalité, ça.
Exactement.
Ouais.
Donc, moi, j'ai posé la question par rapport à ce que j'avais déjà vu. les préservatifs et tout, les coups de fil et tout.
Et qu'est-ce qui vous a répondu?
Depuis ça, non, j'ai pas eu de réponse, ouais. Pas du tout, puisque il a crié, il a dit que c'était pas, j'avais pas dû parler comme ça, que j'étais, non, il n'était pas mon gars.
Il a botté en touche. Quoi.
Et puis voilà, il a presque raccroché, il m'a presque raccroché le téléphone.
Ouais.
Donc moi, face à ça, je me suis sentie complètement désemparée, parce que sa façon de me parler d'un homme très doux, très gentil, mais j'ai eu
l'autre hein. Version là, oui.
Oh, tout à fait, voilà. Donc j'étais un peu perturbée, mais en fait, vraiment perturbée par cette réaction. Donc j'ai pleuré, j'ai presque demandé pardon alors que je savais que j'avais raison. Hein.
Ouais.
Bon, bref. Et puis de là, je vois une distance qui s'installe. Que je ne connais pas, donc j'ai à plusieurs reprises alerté, dit, bon, ben, il s'est passé quelque chose, mais bon, ben, je pense qu'il faille causer l'abcès et puis continuer d'avancer. Et puis je voyais que la distance s'installait, donc c'était cette personne même qui, chaque 13, m'a souhaité joyeux anniversaire de notre rencontre. Et j'ai vu que ça s'est produit 2-3 mois et puis ça s'est arrêté. Donc je me suis dit, bon, mais tu feras pareil parce que, bon, ben, il ne doit pas être là-dedans. Et puis, suite à cela, je prends du Levotirox. Donc j'ai eu assez une dépression. Hein. Donc je me suis retrouvée à l'hôpital par rapport à toutes ces choses-là. Et puis, j'ai pu discuter de ça avec un psy et puis me dire, bon, ben, je crois qu'il faudra lever le pied. Chose que j'ai faite, et puis après, j'ai mis en place des vacances. Donc, je suis partie en vacances. Avant de partir, je lui ai dit tout ce que je pensais de lui. J'ai dit, bon, ben voilà, la relation, elle en est où?
Et attendez, quand vous dites, je lui ai dit, c'était de face à face ou par téléphone?
Non, par téléphone.
J'ai l'impression que vous ne vous parlez que par téléphone, c'est un petit peu sur des sujets aussi graves, c'est quand même embêtant.
Exactement. Ben, parce que cette personne ne m'invite plus à venir chez lui. Comme avant, même si je l'ai aidé à réaménager son intérieur, mettre des plantes, mettre de nouveaux rideaux, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il m'avait raconté qu'il avait vécu. Donc je lui dis, offre-toi la possibilité de vivre un certain bien-être dans ta propre maison. Mais il avait des fleurs en plastique, des choses. Donc moi, je lui ai demandé, conseillé même, hein, de mettre des plantes et tout. Bon,
donc là, ça ne se passait que par téléphone, en fait, vos dialogues?
Quand ça allait très bien, c'était du face à face, hein, il n'y avait pas de souci. C'était du face à face. À partir du moment où il y a eu ce clash entre nous, les choses ont commencé à être par téléphone, après me faire venir, mais vraiment avec de longues distances, hein, et tout. Et puis là, avant de partir, j'ai voulu prouver l'abcès. Donc j'ai dit, qu'est-ce que tu veux, où on va, parce que là, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il n'était pas capable de me répondre. Il m'a dit, je n'étais pas appelé pour te faire des histoires, je voulais juste qu'on parle et tout. Il m'a dit, pars en vacances, quand tu reviens, on en reparle. Bon, je suis revenue de vacances là récemment. À aucun moment, il ne m'a parlé de quoi que ce soit.
Il gagne du temps à chaque fois, en fait. Quoi.
Voilà, donc là, il m'a montré qu'il a débarrassé la maison un peu de certaines affaires que la dame avait laissées, qu'il a mis en sac poubelle. Donc je lui ai dit, mais j'étais fière de toi, puisque... Et ça lui tenait à cœur de le faire, mais il n'avait pas le courage de le faire. Donc là, je l'ai un peu félicité et tout. Il me dit, tu pourras m'emmener des vitamines, tu pourras me prendre des vitamines comme tu m'en avais pris et tout. Moi, j'ai entendu, mais je n'ai pas répondu. Et puis là, ça me perturbe, c'est que, bon, mais il ne dit pas que c'est fini. Parce que quand je lui demandais ce que c'est fini entre nous, il me dit, arrête de me poser ce type de questions. Parce que si c'était fini, je te l'aurais dit. Mais ça fait 2 mois et demi que ça dure. Donc, j'avance pas. La fin de l'année arrive. Noël arrive. Heureusement que j'ai ma famille autour de moi pour rire un peu. Et là, je n'ai plus cette relation que j'avais. Ça me touche énormément. Donc, au fur et à mesure, je m'en détache. Hein, je m'en détache puisque... visiblement. Et puis voilà, la dernière discussion que j'ai eue avec lui, je lui demande comment il va. Oui, mon avocat m'a demandé 1 000 euros. Je ne sais pas où je vais lui prendre les 1 000 euros. Je me suis dit, oula, oula, oula. Chaque fois que j'ai une discussion, discussion avec lui, ça parle d'argent. Donc je me suis dit, bon, certainement cet homme, il se fait financer par les femmes. Et comme moi, je ne tombe pas dans le panneau, ben je suis pas la femme désirable.
Je ne sais pas si c'est ça, Viviane, mais ce qui me paraît clair, c'est qu'il est, il n'a pas fait le deuil de son divorce du tout, de son ex-femme.
Ah, il n'a pas encore.
Il est complètement dedans et je crois qu'il n'est pas du tout prêt à s'engager dans une relation.
Du tout.
Vous êtes arrivé peut-être trop tôt, trop vite dans sa vie, pas au bon moment en tout cas.
Tout à fait.
Parce qu'il a, il a beaucoup de comptes à régler encore avec cette histoire-là.
Exactement.
Après, je ne sais pas si oui ou non, il se fait financer par des femmes ou pas. Mais...
de la maison. Alors moi, je lui ai posé la question, est-ce qu'il voulait retourner, est-ce qu'il veut retourner avec cette personne. Il m'a dit non. Et déjà, il avait du mal. Hein. Depuis 2 ans et demi, il avait laissé pas mal de choses en plan dans la maison. Là, il m'a montré, par vidéo, où il a tout mis en sac. Et je lui ai dit, tu feras quoi? Il m'a dit, elle viendra chercher ses affaires. J'ai dit, ouais, mais si elle ne vient pas, il me dit, eh bien, je lui fous à la benne à ordures parce que ma maison, ce n'est pas un dépôt.
Oui, mais il règle ses comptes avec son passé. Mais croyez-moi, pour vous, c'est juste une galère.
Oui, très galère.
C'est juste quelqu'un qui n'est pas prêt à vous offrir quoi que ce soit pour l'instant.
Exactement.
Et j'aurais tendance à vous dire, pensez à vous. Protégez-vous de ça.
Tout à fait. Parce que quand je lui demande qu'est-ce qu'il veut, il n'est pas fichu de me répondre.
Mais non, parce que j'imagine qu'avec son ex-femme, il y a dû y avoir des questionnements, des règlements de compte, des conflits. Il n'a plus envie de ça. Je crois qu'il est tout juste en train de goûter aussi un peu de liberté parce qu'il.
Tout à fait.
Ça fait beaucoup de choses en même temps. Ça n'empêche pas qu'il tient à vous. Mais il n'est pas capable de vous donner, je pense, ce que vous attendez aujourd'hui. Malheureusement pour l'instant. Donc, soit vous êtes capable, vous, de prendre de la distance et d'attendre. Mais combien de temps, ça, on n'en sait rien. Le temps qu'il fasse vraiment son travail de son côté. Soit vous laissez tomber et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre.
Voilà, parce que moi, je vois qu'il est en admiration de tout ce qu'on a fait ensemble. Le peu de temps qu'on s'est connus, les plantes et tout, il s'en occupe, il me l'a montré par vidéo et tout. Il a en admiration de tout cela, mais...
Il vous offre rien en échange. Hein.
Exactement.
Oui.
Exactement. Donc, pendant un moment, j'ai quémandé. Hein, et là, maintenant, j'ai arrêté. Je ne quémande plus son affection, son amour, tout ce que vous voulez. Parce que je me suis rendu compte, j'ai un peu pensé, puis j'ai tracé avec Sophie aussi. Qui m'a permis de comprendre que pour le ça lui convient comme il l'est, mais aussi qui m'a aussi montré que bon, il n'est pas capable de me répondre. C'est quelqu'un qui ne sait pas conclure, parce qu'il ne me dit pas je ne veux plus de toi.
Non, mais parce que je pense qu'il est lui-même dans un espèce de brouillard. Il doit probablement vivre au jour le jour pour l'instant.
Oui, tout à fait.
Je ne le sens pas capable de s'investir, de faire des projets avec une femme maintenant, quoi.
Tout à fait.
Et en même temps, il
m'a
embêté parce qu'il.
Je fais comprendre.
Oui.
À demi-mot, mais il m'avait dit on prenait notre temps.
Donc, oui, mais en l'occurrence, c'est son temps à lui qui prend. Ce qui est compliqué, c'est que vous n'êtes pas sur le même rythme de temps.
Tout à fait, exactement.
Vous n'avez pas besoin d'attendre quoi que ce soit, alors que lui, si. Quoi.
Moi, ça m'avait plongé complètement dans un brouillard, cette situation.
Et vous, justement, est-ce que vous allez mieux au niveau de cette dépression? Est-ce que vous avez retrouvé un peu la lumière?
Ça va beaucoup mieux. C'est le manque de cette personne qui se fait ressentir pas au moment. Je ne dis pas parce que vous savez, j'ai suivi des idées suicidaires par rapport à tout ça. J'en sors de loin parce que j'avais une dévalorisation de ma personne et tout. Donc ça va mieux, mais. C'est quelqu'un que j'aurais aimé revoir, c'est quelqu'un où j'ai l'impression que je ne vais plus revoir, mais il m'appelle de temps à autre. Quand on parle, eh bien, je ne lui parle plus de nous deux. Je lui demande comment il va, comment va son fils. Vous voyez, je parle de choses et d'autres.
Il y a une distance qui s'est créée de fait. Quoi.
Comment ?
Il y a une distance qui s'est créée de fait entre vous.
Tout à fait.
Mais quand vous me dites qu'il vous manque, est-ce que c'est lui qui vous manque ou est-ce que c'est les projets que vous aviez envie de faire avec lui ?
Alors, les projets que j'avais envie de faire, et puis lui-même, parce que, bon, quand on se retrouvait, on riait, on cuisinait ensemble, vous voyez, c'était ça. Il habite à 2 à 1 heure de Paris, donc ça me faisait quitter ma maison, et puis souffler ou voir autre chose. Et puis c'était, vraiment, il y avait, on riait, tout était un jeu entre nous. Donc, c'est ces choses qui me manquent un peu. Donc,
physiquement, mais vous le revoyez ou plus du tout?
Ah, ça fait 2 mois et demi que je ne l'ai pas vu. Ça fait 2 mois et demi que je ne l'ai pas vu, mais il m'appelle, il peut m'envoyer un petit message, il m'appelle quand je ne l'appelle pas, il va m'appeler. Bon, comme sa sœur me dit, hein, parce que sa sœur me dit, bon, ben, il fait de l'entretien, c'est tout. Il conserve le lien. Mais elle m'a dit comme vous, elle m'a dit, c'est pas qu'il ne met pas de sentiments pour toi, mais pour le moment, il a tellement vécu, parce que ça aussi m'a dit, hein, il a vécu, c'est un homme qui était un peu, sa femme était celle qui le dominait.
Alors, j'allais vous poser la question, justement, comment elle était cette relation de couple? Comment ça se passait avec son
mais ex-femme? Sa femme a 57 ans, lui a 49 ans. Donc, sa femme, c'était elle qui le dominait, c'était lui la femme de ménage, c'était lui qui la servait et tout. Il n'avait pas le droit à la parole et tout. Et une première fois, la dame a demandé le divorce. Après, elle est revenue, elle a dit...
Vous savez pour quelle raison elle a demandé le divorce?
Tout simplement parce que, bon, ben... Elle voulait lui faire prendre conscience parce qu'il avait du mal dans la gestion des papiers et tout, enfin, selon ses dires. Et puis la deuxième fois, il est parti en vacances et il a retrouvé une lettre de divorce dans la boîte aux lettres. Et la première fois, donc, elle est revenue, il a accepté. La deuxième fois, elle a dit, elle pensait qu'il aurait dit non. Parce que c'est lui qui pleuvait quand la dame faisait des menaces de partir et tout. Et là, cette fois-ci, il a dit à la dame, bon, mais comment tu demandes le divorce, on va jusqu'au bout. Il a tenu tête par rapport à tout ce qu'il avait vécu. Donc, il y a eu beaucoup de violence dans les paroles envers lui. C'est quelqu'un qui...
Pardon, Viviane, parlez bien dans le combiné, je vous entends.
Non, j'ai dit c'est quelqu'un qui est très gentil. Mais bon, il a ses défauts aussi. Hein, mais c'est quelqu'un qui est très gentil. Donc, il y a... La dame, c'est elle qui portait le pantalon.
De ce que j'entends dans son histoire, c'est qu'il a été quand même pas mal secoué par tout ça pendant quelques années. Il n'est pas sorti indemne de ce divorce, c'est
23
sûr.
23 ans, oui.
Combien de temps vous dites?
Il a 23 ans.
23 ans de mariage?
Oui.
Eh oui.
Pendant 23 ans. Donc, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un de très gentil. Hein. C'est la gentillesse, c'est l'approche que nous avons eue qui m'a... Je suis restée sur ça et en même temps, je ne me vois pas supplier cette personne. Donc, pour le moment, je laisse faire. Quand il m'appelle, mais je parle de tout et de rien. Mais je ne lui montre plus que je suis intéressée. Mais ça me fait mal.
Oui, j'entends bien. J'entends bien, mais votre sœur vous le dit, moi je vous le dis aussi, je pense qu'il n'est juste pas prêt du tout. Et que ça n'a rien à voir avec vous.
Non, mais sa sœur aussi, hein, sa sœur aussi me le dit. Hein,
sa sœur à lui aussi qui vous le dit, vous voyez.
Oui, sa sœur m'a dit, il en a beaucoup souffert.
Ça paraît évident qu'il est blessé pour l'instant, il est en plein chantier lui-même.
Ouais.
Et qu'il n'arrive pas, il ne peut pas intégrer une femme tout de suite dans cet état.
Parce que sa sœur me dit, pour le moment, lui, ce qui l'intéresse, enfin, pour le moment, je vous dis en termes grossiers, hein, comme elle me l'a dit. Pour le moment, il embauche, il fait des brochettes de femmes.
Pour le moment, c'est ça,
sa vie. Il fait des brochettes de femmes. Celle qui tombe, elle tombe.
Il se lâche un peu, quoi.
Voilà, il n'est pas prêt.
Viviane, il n'y a pas 10 000 solutions, malheureusement. Soit vous acceptez ça et vous attendez, soit vous trouvez que c'est pas bon pour vous et vous lâchez l'affaire, quoi.
Oui, mais pour attendre, il faut qu'il y ait un autre type de communication entre nous.
On est bien d'accord, mais ça...
La communication. Et quand je m'éloigne de cette personne, j'ai l'impression que lui, il revient par des appels. Donc, au fond, même si j'ai envie de tourner la page, je suis encore attachée à ça. Et puis, j'ai envie d'avoir encore ces appels. C'est ça mon problème. Parce que sa sœur, elle m'a dit, écoute, tourne la page, vois ailleurs. Et j'ai du mal, j'ai encore du mal.
Est-ce que vous pourriez envisager, vous, de garder un petit fil de communication et quand même de vivre votre vie à côté? Quitte à ce qu'il y ait une autre rencontre qui arrive d'ailleurs.
Voilà, c'est ce qu'elle m'a conseillé. Elle m'a dit, bon, mais s'il est pour toi, mais viendra le moment où vous allez vous retrouver.
Exactement, j'allais vous dire la même chose. Vous savez, les choses qui doivent se faire se font.
Voilà.
Là, il y a un problème de timing. Si vraiment vous êtes fait pour être ensemble, il y aura peut-être un moment de séparation, le temps que lui se reconstruise vraiment, et vous vous retrouverez de toute façon. Mais ce qui serait bien, c'est que vous fassiez, enfin, que ça ne vous détruise pas cette période-là, que vous fassiez attention à vous
tout
aussi
à
quand même.
Tout à fait. Ah. Parce que c'est ça que sa sœur m'a dit. Elle m'a dit, écoute, t'as permis de mettre ton empreinte chez lui, donc je pense que c'est pas négligeable.
C'est pas anodin, ça,
parce
c'est
que
sûr.
Ça, c'est ouais. pas anodin, il n'avait pas permis ça à qui que ce soit. Donc, il a devant ses yeux tout ce que tu as pu lui apporter, faire avec lui. Donc ça, crois-moi, tu es toujours là. Sauf que, pour le moment, il ne peut pas t'accorder ce que toi, tu es.
Ah oui. Donc, vous l'avez compris, Viviane. Vous l'avez compris.
Parce qu'il il goûte à la liberté. Donc, il embroche les femmes et c'est tout.
Ouais. Viviane, bon. Je ne vais pas pouvoir vous garder très longtemps parce que j'ai encore Gaëtan qui attend le pauvre depuis très longtemps.
Tout à fait.
Vous avez compris, maintenant, il y a deux options. Soit vous avez la patience d'attendre en vous protégeant, soit vous trouvez que c'est trop dur et vous laissez tomber. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas laisser tomber, d'après ce que j'entends. Mais vous en êtes consciente, c'est déjà très bien. Vous êtes lucide sur la situation.
Tout à fait, je vous vois bien.
Donc, vous avez les rênes.
Merci beaucoup. Merci pour votre écoute.
Prenez soin de vous, en tout cas.
Merci, au revoir.
D'accord ? Merci, Viviane, au revoir.
Au revoir.
La Libre Antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Bonsoir, Gaëtan.
Bonsoir.
Merci de votre patience.
Je vous en prie.
Je vous écoute.
C'est un peu compliqué à expliquer. Ah, voilà, je vais faire court parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je suis alcoolique depuis 15 ans, voilà.
Depuis 15 ans ou depuis l'âge de 15 ans ?
15 ans. Depuis l'âge de 29 ans exactement, j'en ai 43.
D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé à 29 ans ?
Une rupture amoureuse.
Mmh.
Que j'ai provoquée.
Pour quelle raison ?
Ras-le-bol, tout simplement. Ouais. Elle ne bossait pas, je bossais, je payais toutes les factures, je payais tout, j'assumais tout, voilà.
Mmh.
Donc ras-le-bol, quoi, même si je l'aimais, quoi, je l'ai viré de chez moi, quoi, enfin de chez nous, quoi. Et voilà, j'ai commencé à picoler tout seul, j'ai regretté après, elle est revenue me voir, mais elle était partie avec un autre mec, et voilà. Ça a débuté comme ça, et ça s'est enchaîné pendant 15 ans, quoi.
L'alcool, ça a été quoi pour vous à ce moment-là ?
Ça a été salutaire, comme ça l'est encore aujourd'hui, ouais. Même si ça m'a détruit, et ça m'a détruit pendant 15 ans, et ça me détruit encore, mais ça a été salutaire, ça l'est encore.
En quoi c'est salutaire pour vous ? Ça vous permet d'oublier ?
Ça me permet, non, pas d'oublier, parce que là, j'ai bu 1,5 litre de vin, et j'ai bu nombre de cafés, et là, je suis au jus d'orange, pour pouvoir vous parler clairement ce soir.
Oui.
Pour pouvoir témoigner, quoi, pour tous ceux qui boivent et qui ne se soignent pas, quoi. Donc, moi, je me suis soigné, j'ai fait des cures, j'ai fait de nombreuses cures. J'ai fait une post-cure même, et ça n'a rien changé, quoi. J'étais abstinent pendant 3 mois, et puis voilà, j'étais abstinent dans ma vie pendant quelques mois, quoi, 6 mois en tout, quoi, en 15
Comment
ans.
Comment ça se passe,
quoi.
Ces cures, dites-moi ? Au départ, vous buvez de moins en moins, ou est-ce qu'on vous arrête du jour au lendemain ?
Non, on arrête de boire de l'alcool, on met du Seresta ou du Valium, et puis on fait une cure, quoi, comme ça, on a des activités, et puis voilà, quoi.
Est-ce que vous avez été accompagné par un psy, quand même ? Vous avez pu parler ?
Oui, mais mal accompagné, quoi. Donc là, aujourd'hui, je vois une psychologue.
Oui.
Je vois une psychologue avec qui je fais un travail intéressant, quoi.
Ah,
et j'en ai vu une dans ma post-cure, j'en ai vu une très intéressante.
Qu'est-ce que c'est la post-cure ?
Fait un bon travail.
Qu'est-ce que c'est la post-cure, en fait, concrètement ?
Post-cure, c'est après la cure, quoi.
Oui,
il y a la cure
bien,
de 15 jours, 3 semaines,
qu'est-ce
et la post-cure, ça dure 1 à 3 mois, quoi.
Qu'est-ce qui se passe pendant la post-cure ?
Bah, il se passe, c'est des soins, quoi. On est d'abord, si on arrive. Si on arrive à vivre, on est traité par le Seresta ou le Valium. Et puis après, on reste 2 à 3 mois, quoi. Et on fait des activités. Et on est suivi par une thérapeute, par une psychologue. et par un médecin qui vient nous rendre visite deux fois par semaine et on a des activités avec des activités sportives, des activités culturelles, voilà.
Donc vous êtes suivi de près.
Ouais.
Et vous me dites que ça n'a servi à rien pour vous en fait.
Non, ça ne sert à rien parce que je continue à boire quoi. Je continue à boire et je m'arrêterai pas quoi. Jusqu'à temps que j'en crève.
Pourquoi?
Parce que c'est mon chemin quoi. C'est mon chemin aujourd'hui quoi.
Comment allait votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites?
Qu'est-ce que je fais? Je fais rien, je bosse pas. J'ai pas de contact, j'ai pas d'amis. Quasiment plus d'amis. J'ai tout perdu quoi.
À cause de l'alcool?
Ou j'ai rien gagné plutôt.
Non. Gaëtan, à cause de l'alcool, voilà. Vous croyez?
Non, ça remonte à beaucoup plus loin, quoi. Ça remonte à beaucoup plus loin, à mon enfance, à mon adolescence. Des problèmes psychologiques, voilà. J'ai pas envie d'en parler plus à l'antenne, quoi.
D'accord. Donc vous n'avez pas de famille non plus pour vous soutenir?
Comment?
Vous n'avez pas de famille pour vous soutenir aujourd'hui?
Si, heureusement.
Ah, alors qui est-ce
heureusement, j'ai une famille pour soutenir, surtout ma mère, quoi.
Oui.
Qui ne doit pas m'écouter à cette heure-là, j'espère. En tout cas, qui ne m'écoute pas, quoi. Mais elle n'est pas au courant que je passe à l'antenne, donc voilà.
Mais elle sait que vous buvez, votre mère, évidemment.
Ouais, bien sûr. Mais elle ne sait pas que j'ai repris, quoi.
Ah.
Pour elle, je suis abstinent depuis 6 mois, quoi.
Comment est-ce que vous arrivez à ce que ça ne se voit pas comme ça quand vous la voyez, par exemple? À donner le
ça se voit sur mon visage, mais elle l'a pas vu, quoi. Ou alors elle fait semblant de pas le voir, quoi. Je sais pas.
Parce que même là, vous me dites que vous avez bu plus d'une bouteille et demie, et vous arrivez quand même à être audible et à parler de manière cohérente.
À donner j'ai le change, bu 3 ou 4 cafés, j'ai bu voilà, donc ça aide, quoi.
Est-ce que vous avez des amis à qui vous pouvez parler de ça, échanger là-dessus?
Bah, j'ai ma meilleure amie depuis 20 ans, mais on s'est fâché là pour une question de politique.
Non, c'est dommage.
J'ai une autre amie sur par SMS sur Facebook, mais voilà, je lui ai dit ce soir que je vais repicoler, puis il m'a dit il m'a répondu qu'il fallait que je témoigne quand même, quoi, et voilà.
Pourquoi...
Peut-être qu'elle m'écoute en ce moment d'ailleurs.
Pourquoi est-ce
Peut-être
que
Alex m'écoute en ce moment aussi, je sais pas.
Pourquoi est-ce que ce soir vous avez repicolé d'ailleurs? Qu'est-ce qui fait que vous recommencez?
Parce que je ne peux pas m'arrêter, parce que c'est une maladie. C'est une maladie reconnue par l'OMS depuis 15 ou 20 ans, quoi.
Okay.
La maladie alcoolique, c'est une maladie reconnue par l'OMS depuis 15 ou 20 ans, c'est une réalité, quoi.
Je suis entièrement d'accord avec
vous. C'est une réalité.
Donc si vous avez compris que c'est une maladie, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous faire soigner?
Je me suis fait soigner, mais ça ne servait à rien.
Vous l'avez dit vous-même, vous avez été mal accompagné la première fois. Est-ce que vous pourriez pas
envisager... Oui, j'ai été mal accompagné dans une première cure, j'ai été mal accompagné, c'est sûr.
Est-ce que vous pourriez pas envisager d'en faire une autre?
Par un psychiatre addictologue qui était là juste pour prescrire des médicaments, quoi, juste pour remplacer les laboratoires pharmaceutiques, voilà, uniquement pour ça, quoi.
Bon, là, vous êtes mal tombé, mais est-ce que vous pourriez pas envisager de faire une autre cure avec quelqu'un de bien? D'avoir un vrai suivi? Pouvoir vraiment vous reposer
sur quelqu'un? Si, j'envisage de faire une post-cure, de refaire une post-cure, hein, parce qu'il faut un délai d'attente d'un an entre deux post-cures.
Mm-hmm.
J'envisage de faire une autre post-cure, là où j'ai déjà fait avant, pour continuer de travailler avec la psychologue que j'ai déjà eue.
Qui, elle, vous a apporté quelque chose, vous a fait du bien?
Qui, elle, m'a beaucoup apporté, quoi. M'a fait redécouvrir des choses que je savais déjà, quoi, mais qui m'a beaucoup apporté.
Bah, c'est important de reprendre le contact avec elle.
Là, elle en a rien, elle a dit, là. Jusqu'à fin décembre.
C'est bientôt fin décembre.
J'ai plus de contact avec elle depuis un mois.
Si elle peut être la petite lumière au bout du chemin, c'est important, hein, franchement.
Oui.
Hein, Gaëtan?
Non, mais la lumière, je la vois, quoi. Je prie tous les jours. Je prie tous les jours. Je suis en face d'un bois, quoi. J'ai les oiseaux qui me réveillent le matin à 7-8 heures. Non, je suis bien dans mon appartement. C'est tout ce que j'ai, quoi. C'est tout ce qui me reste, quoi.
Vous avez envie de vous en sortir?
Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas.
Si vous me dites
j'ai envie de m'en sortir, mais en même temps, c'est trop compliqué, quoi.
Vous savez, ce qui paraît compliqué, c'est quand on regarde tout le chemin qui reste à faire. Mais quand on n'avance pas un pas après l'autre, petit à petit, on peut s'en sortir. Est-ce que vous avez pris rendez-vous avec elle, cette psychologue, au mois de janvier? quand elle va revenir?
Non, je n'ai pas pris un rendez-vous, parce que pour l'instant, elle est absente, je ne peux pas lui parler. Quoi. Donc,
elle a bien quelqu'un qui prend des rendez-vous pour elle, non?
Comment?
Il n'y a pas quelqu'un qui prend des rendez-vous pour elle?
Non.
En tout cas, rappelez-la au moins début janvier quand elle revient, ça me paraît vraiment important.
Oui.
Gardez espoir, Gaëtan.
C'est ce que j'essaie de faire tous les jours en priant.
Vous avez cette foi-là qui vous aide?
C'est ce qui me reste.
Alors gardez vraiment espoir et vous verrez que la lumière peut revenir. Faites-vous aider par elle, vraiment, s'il vous plaît. Allez la voir au mois de janvier quand elle reviendra, d'accord? Je suis désolée, il va falloir que je vous quitte. L'émission se termine déjà, Gaëtan.
D'accord.
Je vous envoie toute la lumière que j'ai avec moi ce soir. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant.
Merci.
D'accord? Prenez soin de vous.
Merci.
Je vous embrasse. Il est l'heure de nous quitter. C'est vrai qu'il est déjà presque 1h du matin. Merci à Daniel, à Camille, à Viviane, à Gaëtan d'être venus témoigner et raconter des morceaux de leur vie ce soir sur l'antenne. Demain soir à 22h30, vous retrouverez avec plaisir Sophie Peters. Quant à moi, je vous dis à vendredi prochain. Et je vous quitte avec cette citation. Quand un enfant est rêvé avant même d'être aimé, l'amour qui se déposera sur lui par la suite aura toujours le goût du ciel. Bonne nuit et à vendredi prochain.